Oui, bonsoir à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les jeudis notre question d'actualité, comme tout le deuxième jeudi de chaque mois, la question d'actualité soumise aux 4 médias. Oui, l'émission des 4 médias en partenariat donc avec Sud-Ouest, en la personne de Yannick Delnest. Yannick Delnest, bonsoir. Jacques Brunet qui représente l'écho des collines. Jacques Brunet, bonsoir.
Bonsoir.
Nous excusons à qui.fr qui nous fait faux bond en ce mois de juillet, mais qu'on retrouvera dès la rentrée au mois de septembre. Et la question d'actualité qui est soumise aux 4 médias aujourd'hui est la question du plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations de la rive droite de l'agglomération bordelaise. Et pour ce faire, nous avons invité autour de ce plateau Christophe Arpaillange, qui est chargé de mission au GPV et qui assure le portage et l'animation du plan de prévention et de lutte contre les discriminations. Nous avons aussi Joël Guérin, qui est ancien correspondant à la HALD et aujourd'hui délégué du défenseur des droits. Nous avons aussi Taïeb El Mestari, de la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale, qui est chargée de mission à la lutte contre les discriminations au pôle de la cohésion sociale. Et nous avons aussi Monique Bois, qui est adjointe à la mairie de Bassins en charge des politiques contractuelles, qui comprend l'agenda 21, le développement social et urbain et aussi le projet éducatif local. Nous avons Josette Belloc, qui est première adjointe à la mairie de Lormont en charge de la politique de la ville et de la citoyenneté. Et enfin, parmi les élus, nous avons Catherine Vessy, qui est vice-présidente du conseil régional en charge de la formation professionnelle. Nous avons aussi pour débattre de cette question Jacques Bouin, qui est directeur de Haute-Garonne Développement. Et enfin, nous attendons d'ici quelques instants Jérôme Ramirez, qui est chef d'entreprise, mais qui est aussi vice-président de l'Interclub 33, en charge de la publication de l'Intermag 33. Alors voilà, pour ce faire et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons demander à Christophe Arpaillange, donc on l'a dit, chargé de mission au GPV, qui assure donc le portage et l'animation de ce plan territorial de prévention de lutte contre les discriminations de la rive droite de l'agglomération bordelaise. Et oui, Christophe, ça fait un long titre pour ce plan. Et avec vous, on va revenir sur l'historique. On sait que le lancement de ce plan a eu lieu en 2003 à Lormont. D'ailleurs, Josette Belloc était présent à la tribune. On s'en rappelle. Donc peut-être vous pourrez réagir aussi, Josette, après la présentation sommaire de Christophe. Alors depuis 2003, Christophe, peut-être un petit retour en arrière et faire un point de situation aujourd'hui.
Le plan territorial de la rive droite, c'est l'engagement de 6 communes, Ambarès et La Grave, Bassins, Senon, Floirac, Lormont et Sainte-Eulalie, autour dans un plan contractualisé avec les services de l'État et d'autres partenaires. Et ce plan avait, dès son origine, le but de mettre en œuvre les politiques nationales et européennes antidiscriminatoires, puisqu'il faut savoir que ce droit et cette lutte contre les discriminations est quelque chose de récent en France et qu'elle apparaît, juridiquement en tout cas, avec la loi du 16 novembre 2001 qui instaure un nouveau droit. Et donc, les services de l'État ont voulu que ce droit soit appliqué et décliné sur le territoire, a lancé des appels à projets, et nos 6 communes se sont retrouvées volontaires, candidates pour lutter contre les discriminations sur leur territoire, pour plusieurs raisons. La première est que la population, surtout compte tenu de ses origines, est particulièrement disposée et prédisposée à subir des discriminations sur la base raciale, ethnico-raciale, raciste. Le deuxième élément, c'est que les communes s'engagent sur leur territoire un peu comme fédératrices des politiques publiques. Et le troisième point, c'est que ce sont des communes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Les 4 bassins, Senon, Floirac et Lormont, autour du grand projet de ville et de la rénovation urbaine. Sainte-Eulalie et Ambarès sont dans le PLI, dans le programme local d'insertion par l'activité économique. Et le critère principal d'entrée a été l'emploi, l'accès à l'emploi et à la formation, qui est le domaine discriminatoire, qui n'est pas le seul, il y en a plusieurs, mais en tout cas qui est celui qui est le plus durement ressenti par les gens et qui représente à peu près la moitié, sous le contrôle de Joël Guérin, des réclamations, requêtes, saisines de la HALDE et maintenant du Défenseur des droits.
Très bien, Christophe. Justement, on fera un point à la fois avec Taïeb El Amestari et Joël Guérin sur effectivement l'état des lieux aujourd'hui. Et peut-être avant d'en arriver là, on va passer la parole à Josette Belloc, on l'a dit, première adjointe au maire de la mairie de Lormont. Évidemment, en charge de la politique de la ville, de la citoyenneté. Alors, on se rappelle, Josette, vous étiez présente à l'occasion de ce lancement, de ce plan qui s'était déroulé à Lormont, d'ailleurs, si je me rappelle bien, au Bois Fleuri. Hein. Et donc à l'époque, vous aviez encore la casquette de proviseur, et d'ailleurs vous nous avez expliqué ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre établissement scolaire. Alors aujourd'hui, avec le recul, Madame Belloc, bon, c'est vrai qu'au départ, au lancement de ce plan, il y avait beaucoup d'espoir effectivement qui était formulé à ce moment-là. Aujourd'hui, avec aussi votre expérience de première adjointe maintenant à la mairie de Lormont, peut-être revenir un peu sur ce lancement et voir les avancées jusqu'à aujourd'hui, Madame Belloc.
Oui, même si ma conscience était très éveillée sur ce thème-là, je me contentais quand même dans ma direction d'établissement, peut-être des vertus supposées de l'école républicaine, à savoir égalité des chances, égalité pour tous et neutralité. Et c'est vrai que le fait d'être sensibilisé, de rentrer dans le groupe de réflexion et puis ensuite d'être formé aussi sur ce thème-là m'a permis d'être plus attentive et d'être aussi plus attentive et plus en observation par rapport à certaines situations scolaires, notamment les stages d'entreprise, les conseils de classe, l'orientation, les sanctions et puis l'insertion. Voilà. Et à partir de là, c'est vrai qu'en tant que proviseur, j'ai monté une série d'actions qui me permettaient à la fois d'observer, d'avoir un tableau de bord, et puis de rectifier tout ce qui me semblait peut-être être de l'ordre de discrimination, même si c'était un terme encore tabou dans l'éducation nationale.
Oui, parce que alors, finalement, c'était une démarche personnelle, très personnelle, Mme Belloc,
voilà, à cette époque-là. Une démarche très personnelle au départ, et ensuite qui est devenue collective au sein de l'établissement, où on a pris en charge... collectivement avec les enseignants et les personnels, particulièrement par rapport à la gestion des stages et à la difficulté qu'avaient certains élèves à rechercher des stages. Donc on avait, si vous voulez, listé un peu toutes les raisons et puis travaillé sur tous les freins justement à l'obtention des stages et toutes les difficultés à obtenir un stage. La discrimination y était pour partie, mais pas en totalité.
Alors aujourd'hui, avec ce plan qui s'est déroulé ces dernières années, est-ce que vous pensez finalement que c'est l'outil qui a permis de mutualiser les expériences de chacun à son niveau d'expérience et qui permet aujourd'hui, on va dire, plus de cohérence dans cette politique de prévention de lutte contre les discriminations?
Oui, il me semble que c'était absolument nécessaire peut-être de définir la discrimination, parce qu'un mot ne peut pas remplacer l'autre dans la discrimination. Je crois que c'est bien d'avoir un vocabulaire très ajusté et très commun par rapport à ça, et puis de savoir aussi comment on peut traiter sur le plan juridique, parce qu'on sait bien que ce sont des choses, bon, je le redis, le terme tabou, et puis on manque peut-être un petit peu de recul, même encore maintenant, on manque un petit peu de recul sur le plan juridique, sur le plan des statistiques, sur le plan des plaintes, etc.
Très bien. Donc peut-être on va revenir avec Joël Guérin sur l'état des lieux et Taïeb El Amestari, parce que Christophe Appayange, dans sa présentation du plan, a insisté effectivement sur le fait que le critère lié à l'origine, c'est-à-dire le critère de discrimination lié au critère ethnico-racial, était, on va dire, une priorité de ce plan-là. Alors peut-être avec vous, Joël Guérin, on l'a dit, ex-correspondant local de la HALDE, et aujourd'hui délégué du Défenseur des droits. Peut-être, Joël, avant de revenir sur l'état des lieux, aborder ce changement de casquette. Alors, les quatre autorités qui ont été réunies sous une seule, dorénavant ?
Tout à fait. C'est la volonté du législateur et du Parlement français qui, à partir du 1er mai, nous sommes devenus des correspondants locaux. De là, nous sommes devenus des Défenseurs des droits. Le 1er mai aussi a été nommé Dominique Baudis, délégué du Défenseur des droits. Et puis notre champ est immense puisque ça concerne la défense des enfants, la médiation de la République et Commission nationale de déontologie des forces de sécurité, plus la lutte contre les discriminations. Voilà, c'est un champ important, mais il faut s'incliner sur la volonté démocratique de, de notre Parlement. Voilà, donc la seconde question que vous m'aviez demandé, c'est la répartition des réclamations par critères ou par domaine. Donc en 2010, la HALD a reçu 10 479 réclamations. Je ne vais pas toutes les dire parce qu'il y en a beaucoup, mais en l'origine est 27% du total. Le second, c'est le handicap et la santé avec 19%. Et le troisième, c'est l'âge avec 6%. Voilà les réponses que je peux faire pour l'instant.
Donc, M. Guérin, avec une progression ces dernières années dans un domaine en particulier, on va dire que c'est plutôt stable et il n'y a pas de surprise d'une année à l'autre, quoi.
Il y a une augmentation sensible des réclamations. Et dans les domaines, par exemple pour l'origine, vous voyez, en 2005, il y avait 38%. En 2006, 35%. Et en 2008, un exemple aussi, c'est 29%. Donc il y a un plafonnement, on peut le dire comme ça.
Très bien. Et le fait qu'aujourd'hui, en plus de traiter les réclamations concernant les discriminations, mais en plus, on vous l'avait dit, Défenseur des droits, Médiation de la République, Commission de déontologie, Sécurité publique, est-ce que ça va vous rendre plus difficile votre tâche justement concernant les discriminations ou pas?
Je ne sais pas vous répondre, mais ce qui est important, c'est qu'on a un travail considérable, parce que en Gironde, je l'ai pas dit tout à l'heure, nous sommes 11, puisqu'il y a 7 médiateurs de la République, un défenseur des enfants et 3 anciens correspondants locaux de la. Nous sommes 11 pour le département de la Gironde. C'est très important à dire, je vais vous le dire, hein, donc qui a eu 331 réclamations en l'année 2010. Et le département qui arrive en réclamation auprès de la HALD, c'est les Bouches-du-Rhône. Le deuxième, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Et en troisième, c'est la Gironde avec 331 réclamations.
Les mêmes répartitions de réclamations?
Oui, c'est très. C'est un constat, oui. Ça correspond à nos réclamations qui sont très souvent viennent de l'origine.
Merci, Monsieur Guérin, pour ces précisions. Donc, on l'a dit, le classement, on va dire dans l'ordre. Donc, en premier arrivent les discriminations liées à l'origine. En deuxième, lié à l'handicap ou à la santé. Et enfin, en troisième position, celui lié à l'âge. Et la question de genre, enfin, discrimination liée au, on va dire, au statut de genre, quoi, c'est-à-dire plutôt pour les femmes, l'AREPA n'est pas classée dans.
Si, elle est classée quatrième. Donc, parce qu'il y a eu un effort qui a été fait, il y a beaucoup de discriminations qui touchent les femmes enceintes, qui du jour au lendemain se voient leur contrat de travail qui se font licencier. Et c'est en progression. Et c'est inquiétant. Voilà.
Très bien, Monsieur Guérin. On va peut-être passer la parole à Taïeb El-Mestari pour la direction régionale Jeunesse, Sport et Cohésion sociale. Taïeb El-Mestari, vous êtes chargé de mission justement sur la question de la lutte contre les discriminations au pôle cohésion sociale. Donc Taïeb, avec votre expérience, alors quelle analyse vous faites de ces chiffres et puis de vos propres chiffres certainement aussi auprès de votre direction régionale?
Sur cette question du chiffre et la question de l'origine, depuis un certain temps et dans toutes les structures et dans toutes les réunions où je peux assister, je défends cette question, qui est la suivante. Souvent, la question de l'origine est niée, ou en tout cas négligée, par rapport aux autres critères de discrimination définis par la loi. Donc je me bats pour faire reconnaître cette spécificité de discrimination raciste ou ethno-raciale, pour la simple raison, c'est qu'effectivement, les chiffres montrent que les réclamations sont très importantes, les plus importantes parmi tous les critères. Et deuxièmement, c'est Et donc, paradoxalement, c'est plutôt négligé, c'est plutôt nié, noyé. On dit noyer le poisson, comme disent les jeunes de Lormont. On essaie de noyer cette question dans toutes les autres discriminations. Or, nous savons très bien que l'histoire, par exemple, l'histoire coloniale, on n'en est pas sorti. Les représentations sont construites à partir de l'histoire coloniale. Il suffit, par exemple, de regarder la littérature, le cinéma. Pour dernier exemple, avant-hier, j'ai regardé la présentation du nouveau film de Spielberg sur Tintin. Et le rôle négatif, très négatif, du trafiquant d'opium, c'est Omar Ben Salad. Donc effectivement, ce genre de cinéma a des effets extraordinaires sur les représentations. C'est qu'un exemple, mais si on regarde tous les films d'Hollywood, etc., vous saurez très bien, vous savez très bien, comme nous, que les rôles négatifs ont été attribués effectivement à toutes les minorités ethniques, les Indiens, les Noirs, aujourd'hui avec ce qui se passe au Proche-Orient, les Arabes, etc., etc. Donc effectivement, il faut prendre cette question très au sérieux, et l'actualité politique nous montre que cette question est très importante, parce qu'il y a plein de condamnations au plus haut niveau. Donc, je me bats pour faire reconnaître cette spécificité de la question de l'origine. Et lorsqu'on a voulu relancer le plan territorial de prévention des discriminations...
Donc à partir de 2007-2009
À partir de 2009, disons, effectivement, le débat était sur cette question des critères, et j'ai insisté sur la question du critère de l'origine, et j'ai expliqué pourquoi, comme je le fais aujourd'hui, pourquoi ce travail, d'autant plus qu'aujourd'hui, et depuis, je crois que c'est Jacques Chirac, sur un rapport de Simone Veil, nous ne pouvons pas faire de statistiques ethniques. Donc les capacités à faire... À élaborer des projets, à faire des évaluations, etc., ça nous est quasiment, je dis, impossible à réaliser aujourd'hui. Donc, tous ces problèmes font qu'aujourd'hui, l'effort doit être concentré sur cette question de l'origine. Alors, je voudrais rappeler une chose aussi, sur cette question des initiatives. Effectivement, l'accès, le dispositif de l'accès, nous avons mobilisé dans le cadre de ce plan territorial. Donc, il y a des formations, on va essayer de former tous les élus de la rive droite. Nous avons lancé des diagnostics plutôt locaux sur des territoires petits comme à Embarras et Lagrave, sur cette question des discriminations et en particulier cette question des gens du voyage sur le territoire. Nous avons lancé la formation de la commission extra-municipale de Lormont parce qu'on est parti de l'idée, ça a été dit dans le plan territorial, c'est qu'il faut construire à minima, quand on est plusieurs acteurs sur un territoire, construire un savoir partagé, comme l'a dit tout à l'heure même Mme Belloc, un savoir partagé sur les discriminations. Quand on débat de ça, il faut toujours avoir une définition commune de ce qu'est la lutte contre les discriminations. Sinon, si on part sur des malentendus, effectivement, tout ça aura des conséquences sur toute la suite.
Très bien, on vous remercie, monsieur Elmastari. Oui, Christophe Arpaillange.
C'était quand même pour rajouter, quand on parlait de la discrimination, des discriminations, c'est quand même bien pour donner la définition, et la définition est juridique dans la loi. C'est la discrimination, c'est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi. Il y a 18 critères, Joël en a mentionné 4, mais... Je crois qu'on peut les donner effectivement.
Sexuelle,
l'activité syndicale, l'âge, l'apparence physique, les caractéristiques génétiques, les convictions religieuses, l'état de grossesse, le handicap, l'état de santé, les mœurs, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, l'origine, le sexe, la situation de famille. Et enfin, ce sont des discriminations qui sont interdites dans un des critères cités par la loi ou dans un des domaines cités par la loi. Il y en a 6, dont l'emploi, l'éducation, la santé et autres. Donc on applique la loi républicaine et déjà ça doit être le point qui constitue le socle commun de tous les élus et la base aussi de l'engagement des élus du territoire de la rive droite pour... appuyer cette politique.
Taïb, vous voulez faire un complément, peut-être ?
Plus qu'un complément, parce que je voulais insister sur d'autres dimensions lorsque nous traitons cette question de discrimination. C'est notamment faire en sorte que, dans un dispositif, et avec le plan territorial, nous y sommes, nous travaillons là-dessus, c'est que ce soit concret. Parce que la lutte contre la discrimination n'a aucun sens si ceux qui sont potentiellement victimes de ces discriminations n'en ressentent pas les effets. Donc il faut s'atteler à faire en sorte que la lutte contre les discriminations ait des effets concrets. Et je voulais enfin terminer par une question qui me paraît, moi, fondamentale. C'est qu'on a souvent l'habitude aujourd'hui de parler à la place des premiers concernés. Souvent, on débat, comme ici aujourd'hui, mais dans d'autres séminaires, dans d'autres colloques, dans d'autres réunions, on débat sur ceux qui sont victimes des discriminations et souvent ils n'ont pas la parole. L'idée, c'est que les premiers concernés doivent être soutenus par les collectivités, les élus, à prendre en charge ces projets, comme nous l'avons fait avec le Centre social de Lormont. Et ça a été une réussite fabuleuse. Ça a un succès énorme aujourd'hui.
Oui, sur le séminaire. Si vous
voulez, tout à l'heure, je pourrais vous dire de ce qu'il en est de ce succès. En tout cas, il faut prendre l'idée. Prendre un exemple. Si aujourd'hui, il y a des débats, si on organise des débats, des réunions, des projets, etc., sur le sexisme, sans présence des femmes, ça ferait un peu bizarre. Et bien aujourd'hui, la majorité des cas, c'est ça. C'est qu'on fait des actions. On parle de la lutte contre la discrimination liée à l'origine, sans la participation des premiers concernés. Et je pense que là, c'est une révolution copernicienne des mentalités qu'il faudrait faire, c'est-à-dire une transformation de ceux qui sont en charge de la lutte contre les discriminations, ceux qui sont dans l'espace public comme les élus, etc., réfléchissent à cette question-là.
Merci, monsieur El Mestari. Alors, avant de passer la parole aux élus de Bassins et de la région, peut-être saluer l'arrivée de Jérôme Ramirez qui nous a rejoint. On vous remercie, Jérôme, donc, qui est chef d'entreprise, mais aussi vice-président de l'Interclub 33 et en charge de la publication de l'Intermac 33. Bonsoir, Jérôme Ramirez.
Bonsoir.
Donc, on donnera la parole tout à l'heure après les élus pour voir ce qu'il fait au niveau des municipalités. On reviendra vers le secteur de l'entreprise avec Jacques Bouin pour de Garonne Développement et vous pour l'Interclub 33. Oui, Yannick.
Avant de passer la parole aux élus, j'aurais aimé revenir vers M. Arpaillange. Vous avez défini les motivations de ce plan et les conditions historiques. Est-ce que vous pouvez nous renseigner un peu plus sur les outils et les moyens d'évaluation, enfin, ce qu'il y a vraiment dans ce plan, de quels outils vous êtes dotés, de quels moyens et sur la durée, comment ça fonctionne concrètement?
Voilà. Donc il contient 5 axes. Le premier qui est finalement l'élément crucial, c'est fédérer. C'est-à-dire rassembler les élus, les services de l'État, les acteurs du territoire associatif, économique, intermédiaire de l'emploi, puisque c'est notre thématique, c'est dans des lieux communs, dans un socle commun et autour d'un cadre d'action partagé. Le deuxième axe, c'est former. Former parce que, on a dit, les discriminations, c'est une définition juridique. C'est aussi comprendre des pratiques sociales, des représentations, des choses ancrées qui sont compliquées, en sachant que la discrimination est aussi un système et que parfois ne résulte pas toujours d'une démarche volontaire ou plutôt de la combinaison de plusieurs démarches, chacune involontaire, qui aboutit par effet de système à une discrimination. Donc il y a effectivement à former. La troisième action, c'est d'accueillir, de faire participer et d'accompagner les personnes ou les groupes qui seraient ou potentiellement victimes ou acteurs ou concernés en tout cas ou impliqués autour de la question. Donc ça va de choses qui tiennent de l'action sociale ou économique.
Justement, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'actions, voilà, d'accueil? Alors, jeune qui est victime d'une discrimination aujourd'hui.
Des actions d'accueil, d'accompagnement.
Comment oui. a-t-il accès au plan? Comment a-t-il accès à ses acteurs?
Il a accès sur l'angle juridique à travers justement l'implication de la HALDE, d'une association d'aide qui s'appelle InfoDroit, qui tient des permanences donc d'ouverture d'informations et d'accès aux droits. On a des actions menées, par exemple, par le CIDF, qui devait venir et qui s'est excusé, autour de l'accompagnement de femmes souvent d'origine étrangère et souvent victimes de double discrimination, parce que le critère n'est pas unique et on peut cumuler en la matière. Et donc là, d'accompagnement renforcé autour de l'emploi, autour de la création d'entreprises, en essayant de les aider à parer ces discriminations qui existent. On a des questions ou des actions autour, Jacques en parlera, autour des entreprises, comment aider les entreprises à travailler, puis des actions qu'on entreprend avec les villes maintenant, qui sont aussi productrices de services, qui sont employeurs, qui, au-delà d'être simplement le fédérer les politiques publiques, donc on a un ensemble d'actions concrètes sur lesquelles on pourra revenir dans le détail.
Le constat que vous faites aujourd'hui, c'est que dans le monde de l'entreprise comme chez les élus, il y a encore du travail à faire sur la sensibilisation, sur la, la, la prise en compte de ces discriminations sur la rive droite notamment, par exemple.
Il y a énormément de travail. Alors, pas que sur la rive droite, d'autant plus que si on travaille avec le public de la rive droite, les employeurs sont sur l'ensemble du territoire, ou au moins sur le bassin d'emploi, même si on travaille avec les entreprises locales. Donc il y a un travail parce que ce qui nous revient d'en parler en Barès l'autre jour en réunion, et la chargée de mission économie-emploi nous disait qu'elle reçoit qu'elle recevait, puisque ça fonctionne un peu changé, mais enfin des demandeurs d'emploi qui lui décrivent des situations où ils ont été clairement discriminés et eux-mêmes n'en ont pas conscience. Une dame qui dit « Oh ben c'est normal qu'on ne m'ait pas pris parce que finalement je suis vieille, donc c'est normal qu'il veuille un jeune ». Donc des choses qui sont tellement ancrées que ceux qui en sont victimes l'ignorent. Et donc effectivement, il faut à la fois donner la parole à ceux qui le savent et puis aussi aider ceux qui ne le savent pas à le...
Tout en sachant qu'il y a des gens qui constatent, qui vivent ça, qui en souffrent clairement.
Heureusement qu'il y a des gens qui
en ont conscience.
Voilà, mais on a là aussi, ça fait partie des questions à travailler. On a très peu de, nationalement et localement, très peu de plaintes et de réclamations, vu ce qu'on connaît de l'ampleur des situations d'enquête de victimation et de travaux sociologiques là-dessus.
Rapidement, fédérer, former, accueillir.
Communiquer. Justement pour informer le monde et puis essayer de suivre, évaluer, connaître. On a quelques actions. On soutient la mairie de Senon et celle de Floirac soutiennent un travail avec l'université Bordeaux 2 ou Bordeaux 3, je ne sais plus, qui est dirigée par Yves Rébeau, qui est maître de conférence, autour de l'accès différencié aux loisirs et aux pratiques sportives.
Pour les garçons et pour les filles.
Pour les garçons et pour les filles, enfin pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Donc c'est un travail qui est en cours sur la CUB et donc deux des communes participent et on aura bientôt des résultats. C'est sensibiliser.
Donc c'est sur Floirac et Blanquefort l'enquête.
Il y a Floirac, Blanquefort, Senon. Et puis la quatrième commune de l'agglomération. Donc on essaie aussi, malgré de tourner des biais statistiques, en tout cas, ou des interdictions statistiques, on a quelques méthodes autour du travail avec des prénoms.
Une étude intéressante, Christophe, on a reçu M. Rébeau à deux reprises, justement, au début de l'enquête et à mi-enquête, qui doit se finir d'ici 9 ou 10 mois maintenant.
Oui, c'est ça.
Et effectivement, on s'aperçoit qu'à partir d'un certain âge, les filles désertent l'espace public, les équipements sportifs ou de loisirs. Donc ça reste quand même une enquête très pertinente et factuelle, quoi, qui nous permet d'évaluer
Mais au-delà, cette disparition. Ça pose la question de l'offre de loisirs, des politiques locales et nationales. Et je sais qu'on travaille aussi par ailleurs au JGPV avec les élus au sport des quatre communes. Et ils sont aussi sensibles à ce côté-là et se disent qu'effectivement, pendant un moment, le sport a été... un facteur a été en pilotage un peu automatique sur ces questions-là et qu'effectivement, poser la question des discriminations au genre et à l'origine, c'est quelque chose qui vaut le coup parce que les politiques, y compris... C'est si systémique. On voit bien que l'action des collectivités locales, de l'État, des fédérations sportives, fait que globalement, on a un tiers des femmes qui sont licenciées et pour deux tiers des hommes dans les clubs sportifs... Et là, il y aurait peut-être besoin de soutien, de diagnostic, de connaissances aussi pour approfondir.
Bon, très bien. On parlait des politiques. On va leur donner la parole. Alors, donc Monique Bois, adjointe à la mairie de Bassins. On l'a dit, Bassins fait partie évidemment des civils qui composent le territoire d'intervention de ce plan de lutte territorial de la rive droite, plan de lutte et de prévention contre les discriminations. Donc, Monique Bois, alors vous, en tant qu'élu de Bassins, en charge des politiques contractuelles, comment vous avez abordé les questions liées à l'exercice de ce plan? Et aujourd'hui, quels sont les points importants, d'après vous, qu'il faudrait peut-être améliorer? Notamment, on a cité la formation tout à l'heure des élus. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important? Ou encore d'autres préconisations que vous avez à faire à l'échelle de la commune et voir à l'échelle du territoire du plan?
Oui, alors bien sûr, nous faisons partie effectivement du groupe de réflexion sur les Hautes-Garonne. Alors, c'est vrai que c'est un groupe important parce qu'il permet quand même d'échanger. Et ça, c'est important parce qu'il est vrai que tout le monde n'a pas la sensibilité de réfléchir aux discriminations, même si quand même sur la rive droite, je crois que le public que nous avons ne nous laisse pas le choix et nous sommes vraiment obligés de nous pencher sur ce problème et d'y répondre. Alors sur Bassins, nous avons
avons surtout travaillé sur les discriminations de genre et sexuées. Alors, on est rentré sur trois principes. Le premier, c'était éduquer. Après, c'était former et ensuite accompagner. Alors, je dirais qu'on a commencé par la formation. Disons, la première chose qui nous a sauté aux yeux, c'est ce que vous disiez, la disparition des filles dans l'espace public. On ne les retrouvait plus, passé la LSH, 10 ans, 11 ans, plus de filles. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passait? Donc, il a fallu qu'on travaille avec tous les services sur ce problème. Et on a commencé par travailler justement sur une formation. Avec tous les agents, notamment qui étaient avec des jeunes, on a travaillé avec le CIDF, avec le planning familial, sur plusieurs sessions, de façon à savoir comment faire en sorte que les filles puissent avoir aussi leur place dans l'espace public et qu'il puisse y avoir une égalité. On parle surtout, pour nous, tout ce qui est discrimination va avec égalité des chances, c'est-à-dire comment donner la chance à tout le monde ou la possibilité à tout le monde d'avoir la même chance que l'autre ou d'être dans un parcours qui peut l'intéresser. Donc on a travaillé sur ce champ-là. Donc systématiquement pour nous, chaque action doit réfléchir sur le pourcentage filles-garçons et sur ces problèmes de discrimination, qu'elles soient aussi parfois raciales, effectivement. Pourquoi on ne trouve pas de jeunes ou de jeunes filles qui sont de différentes origines sur les activités? Donc ça a été des grosses questions qui sont travaillées depuis 2008. Donc, et tous les ans qui sont remises au goût du jour et qui sont retravaillées. Ensuite, ça a été éduquer. Éduquer, il nous semblait important que dès le plus jeune âge, on puisse travailler la relation fille-garçon. Donc là, on a pu travailler avec le collège, on a pu travailler avec la LSH, c'est la médiathèque, on travaille sur des ouvrages que l'on fait lire aux enfants, où on discute des sujets, qui partent à la maison avec le livre, on en discute à la maison. Après, les familles viennent, on rediscute, pourquoi, comment. Et ça, c'est important aussi de faire en sorte que les questions se posent, que les choses ne paraissent pas naturelles. Les filles sont d'un côté, les garçons de l'autre, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et on continue. Non,
oui, il y a des problèmes, on ne les nie pas, voilà. On peut même en parler ensemble,
voilà.
En famille.
Voilà, on peut en parler ensemble, en famille, et les enfants peuvent discuter de ces sujets-là. Et ça, c'est important qu'ils intègrent, dès le plus jeune âge, la nécessité de cette égalité, filles-garçons. Ensuite, ce que l'on a fait, on a travaillé aussi avec les ateliers de français. Nous avons des ateliers de français qui sont majoritairement occupés par des femmes, pareil, qui sont complètement exclues de l'espace public, j'ai envie de dire, et qui, pour la plupart, ont envie de prendre la nationalité française. Donc elles viennent à ces ateliers de français et nous profitons de ces ateliers justement pour travailler avec elles ce qu'est la relation homme-femme, comment elles le vivent, comment elles, et petit à petit les amener à réfléchir sur ce qui leur semble normal aussi, et où elles peuvent peut-être trouver d'autres espaces où elles pourront s'épanouir et être plus à l'aise.
Alors ces ateliers, c'est en partenariat avec une association?
La mairie.
Avec
c'est la mairie. Nous avons quelqu'un qui intervient, qui est payé par la mairie et qui intervient sur ces ateliers de français, langue étrangère un peu, et puis surtout la vie quotidienne. Et on voit la difficulté même de ne serait-ce que pour se déplacer. Quand on, l'objectif aussi, c'est de les faire sortir de Bassins même et de pouvoir les amener ailleurs. Mais dès qu'on, même en les accompagnant, le jour où on dit on va aller ailleurs, on se referme. Donc il faut, c'est tout un travail qu'il y a à faire pour justement qu'elles puissent prendre leur place dans l'espace public. Ça, c'est important. Et accompagner, bien accompagner, ça en fait partie effectivement, mais c'est aussi accompagner. Là, nous allons travailler cette année beaucoup sur l'emploi, puisque nous avons un nouvel espace entreprise-emploi qui vient de s'ouvrir. Et là, on va travailler avec le CIDF sur les représentations des métiers et sur les représentations masculins-féminins, justement. Et nous avons un club d'entreprise qui est quand même très volontariste, et je pense avec qui nous allons pouvoir travailler cette question de genre et dans l'emploi aussi, parce que c'est un volet très, très important. Et les femmes ne sont pas forcément que des femmes de ménage, et elles peuvent être autre chose aussi dans une entreprise.
Oui, on a vu un rapport du CSA qui date de quelques jours. C'était en termes de représentation des femmes à la télé. On
en parlait tout à l'heure pour le cinéma. Et donc, effectivement, elles n'étaient pas majoritaires, hein, et que ce soit parmi les animateurs ou les animatrices, et hein, même parmi les intervenants, les invités, elles étaient rarement dans le rôle d'expert. Elles étaient plutôt confinées à leur rôle de femme au foyer ou mère d'enfant. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, il y a encore des progrès à faire.
Il y a encore des progrès à faire. Mais nous avons la chance d'avoir dans le club d'entreprise beaucoup de femmes, donc je pense que ça va bien nous aider.
Très bien. Alors, peut-être avant de passer la parole à Catherine Messi pour avoir peut-être un point de vue plus régional, revenir sur la commune de Lormont avec Josette Belloc, commune de Lormont, dans laquelle, Josette, il y a une commission spéciale qui a été créée, je crois, pour s'occuper de ces questions-là.
Hein. Oui. Oui, on entend, c'est vrai, très très souvent et très régulièrement, il faut que les politiques montent au créneau, il faut que les politiques se mouillent, il faut que les politiques fassent preuve de détermination et pas seulement un affichage. Voilà. Donc, dans la commune de Lormont, une commission extra-municipale s'est mise en place. Bon, dans le cadre d'ailleurs de la délégation citoyenneté Bien Vivre Ensemble, cette commission est présidée par Mireille Carbaol, qui est quand même un référentiel important en ce qui concerne les droits de l'homme. Et voilà, donc il y a un portage, bien sûr, par monsieur le maire de Lormont, et aussi de la communication autour, si vous voulez, de cette action, qui ne se traduit pas seulement par un flyer, c'est par rapport à la communication, et je crois que quelqu'un l'a dit très fortement tout à l'heure, bien se préoccuper de la communication, bien soigner la communication, bien être précis sur les mots. Un mot ne peut pas remplacer un autre mot, et une bonne communication qui ne se contente pas de distribution de flyers.
On parlait du séminaire, tout à l'heure, Tahir Benemastari parlait du séminaire qui avait été organisé par le Centre Social Génicard. Je crois que la mairie était partenaire aussi sur cette programmation.
Oui, vraiment une action très réussie. Je laisserai le soin à Tahir peut-être de voir comment d'autres actions, à partir de là, vont irriguer le territoire et les commandes nombreuses qu'il y a au Centre Social Culturel par rapport à cela. On peut dire une journée de grande qualité, un travail avec les 25 jeunes pendant une année, avec des contenus, des méthodes, des démarches, des interviews, des témoignages. Et je pense que ça a eu son effet.
Merci, Madame Bello.
Ça a eu ses effets.
Voilà, mais maintenant, peut-être passer la parole à Catherine Messi. On l'a dit, vice-présidente du conseil régional en charge de la formation professionnelle. Avec vous, peut-être, Catherine, revenir sur le point de vue de la région sur ce territoire sur lequel est mis en œuvre justement ce plan de prévention et de lutte contre les discriminations, et puis aussi revenir peut-être sur d'une manière plus globale sur la politique de la région sur ces questions-là de prévention de lutte contre les discriminations, et peut-être en particulier dans la formation professionnelle, domaine dont vous vous occupez, Catherine Messi.
Oui, il y a eu une volonté du Conseil régional, du président du Conseil régional, Alain Rousset, de se pencher sur la question de la lutte contre les discriminations à travers la compétence majeure qui est de la région, qui est la formation professionnelle. Donc c'est à ce titre-là qu'un appel à projet a été lancé, de lutte contre les discris, et dans la formation professionnelle, et dans l'apprentissage, et sur l'ensemble du territoire aquitain, ouvert aux associations, aux organismes de formation, aux centres d'apprentissage, à toute structure qui se sentait en capacité de porter un projet sur la lutte contre les discriminations. Et à ce titre-là, je salue le dynamisme de la Rive-Droite, parce que O2 Radio, précisément, a répondu à l'appel à projet, a été retenu, et d'ailleurs, l'émission a lieu dans ce cadre-là. Je dois dire que ça nous a intéressé vraiment à la région, parce que vous êtes le seul média à l'échelle de l'Aquitaine qui s'est dit qu'il avait un rôle à jouer dans cette question-là, puisque les réponses étaient plutôt portées par des missions locales, des organismes de formation. Et là, on a vu arriver donc un collectif autour de d'O2 Radio, mais aussi avec les colis.
Les radios associatives ont leur faiblesse, mais aussi leur force, parce qu'elles peuvent choisir aussi quand même quelle
thématique aborder. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a intéressé, parce qu'on s'est dit qu'on avait là l'occasion d'aller vers de la communication, de l'information, de la diffusion, comme ça, par capillarité de ce sujet-là. Haute-Garonne Développement a également postulé pour la prochaine campagne sur cette question-là aussi. Donc vraiment, on a des partenaires sur le territoire Rive-Droite qui sont très mobilisés. Parce que, et cela a été dit tout à l'heure, ce qui nous paraît essentiel, c'est vraiment de favoriser l'accès à la formation pour, d'une part, les publics qui en sont le plus éloignés, parce qu'on l'a pas encore dit, mais il y a aussi peut-être aussi une discrimination par rapport au niveau de qualification aussi. Ça paraît tout bête, mais voilà, là où les jeunes ne sont pas qualifiés, ou un demandeur d'emploi qui est demandeur d'emploi depuis très très longtemps, eh bien il a moins de chances, ça paraît une évidence de le dire, mais sur un entretien, il est un peu plus discriminé que les autres. Beaucoup de discrimination liée au genre aussi. Ça nous a paru important parce que ça nous paraît évident qu'il faut, on va dire, au niveau de la formation, tenir un petit peu tout le bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'il faut travailler à la fois auprès des entreprises, et là il y a des experts qui en parleront, travailler aussi auprès des prescripteurs, je pense à Pôle emploi, Mission locale, les plis, tous ceux qui à un moment donné font de l'orientation vers des actions de formation et qui eux-mêmes parfois, on l'a dit, hein, il y a des témoignages, moi je reçois des courriers régulièrement aussi de personnes qui ne comprennent pas pourquoi à un moment donné ils n'ont pas eu leur chance, ils n'ont pas été orientés vers telle formation. Donc il y a un travail à faire auprès des prescripteurs et aussi auprès des bénéficiaires eux-mêmes de la formation, des stagiaires, ça me paraît important. Et dans les appels à projets que nous avons retenus, j'écoutais ce que vous disiez, laisser la parole aussi à ceux qui sont directement concernés et victimes de discrimination. J'ai vu des initiatives très très intéressantes, ce sont les jeunes eux-mêmes qui se sont mis en scène pour expliquer, c'était je pense à un projet dans Lot-et-Garonne, expliquer eux-mêmes ce qu'ils avaient sous forme extrêmement humoristique, un petit film, je peux juste dire, c'était un jeune d'origine maghrébine qui va sonner à une porte d'un dentiste, et le dentiste il ouvre la porte, puis il lui dit non mais j'ai pas commandé de pizza, il lui dit non mais je viens répondre à l'annonce que vous avez faite, vous cherchez un assistant, et donc voilà. Alors, à partir de plein de petits films comme ça, on a retravaillé là-dessus, c'était très très intéressant. Moi ce que je voudrais dire aussi, on a parlé des discriminations lié au genre, lié à l'origine, lié à l'adresse aussi, parce que ça, c'est une vraie réalité.
Alors peut-être que le critère finira par entrer dans la loi.
Voilà, il n'est pas encore entré. Il y a des c'est le critère en suspens, mais qui est important parce que je sais par exemple que sur nos actions de formation, nous avons fait rajouter dans les priorités les jeunes issus des quartiers sensibles. Enfin, moi, j'ai tenu à ce que ça y soit. Outre le fait que parce qu'ils sont un peu moins qualifiés, on va dire, que les autres statistiquement, mais aussi parce que l'adresse fait partie des discriminations. Et dernier point que je souhaitais dire, parce que on a parlé aussi sensibilisation des élus, et je le partage, mais ce qui me paraît important aussi, c'est de relier ce type d'initiative comme l'appel à projet de lutte contre les discriminations de la région à l'ensemble de d'autres dispositifs, d'outils de mobilisation qui se font. Et plus spécifiquement ici sur la rive droite, si on zoome, je pense au réseau Persévérance, le lutte pour la persévérance scolaire. Je pense à tous les dispositifs que nous mettons en place autour de l'idée de la deuxième chance. Et j'insiste sur les chantiers qualification de deuxième chance sur lesquels nous avons beaucoup travaillé avec les communes du GPV pour définir des publics prioritaires et notamment l'accès à des formations pour des filles qui ne peuvent même pas imaginer elles-mêmes, mais aussi les prescripteurs, qu'elles peuvent être orientées vers ce type de formation.
Oui, qui demain vont avoir un...
Et je pense notamment, alors là, on s'attache à ça, on va développer une action un peu innovante sur la rive droite durant le dernier trimestre 2011 de formation sur les peintures et métiers autour du composite, parce que là, il y a énormément de boulot, il y a énormément de débouchés, les entreprises nous disent attendre que les gens soient formés pour les embaucher. Et là, c'est typiquement le genre de métier sur lesquels, alors là, les filles ne peuvent même pas penser qu'elles peuvent travailler sur la peinture composite, c'est-à-dire sur des avions, sur des bateaux. Et là, il y a du boulot. Donc c'est à nous aussi de faire passer ces messages en termes de représentation. C'est le cas des métiers de la soudure aussi. Voilà, moi j'étais dans Lot-et-Garonne la semaine dernière, un groupe de formation sur 15 stagiaires, j'avais une fille sur les métiers de la soudure, où là on sait aussi que ce sont des métiers à tension. Donc il y a tout ce travail-là à faire, et ça me paraît important à mettre en perspective, et ça se travaille pas isolément. uniquement entre, on va dire, Pôle emploi, mission locale et conseil régional. Ça se travaille, ce que disait Josette, ce que disait Monique aussi, ça se travaille le plus en amont possible. C'est lié à l'éducation, c'est lié au travail qui se fait dans les écoles, après dans les collèges, après dans les lycées, au niveau des familles. C'est un tout. Et une initiative isolée, à mon avis, ne produira qu'un effet isolé. C'est par un maillage, une convergence comme ça d'initiatives que l'on va arriver à changer durablement, me semble-t-il, voilà, à changer durablement ce qui se passe et l'image l'image, mais pas que ça, c'est pas changer que l'image, c'est aussi changer la réalité et le fait que
il faut gagner en crédibilité,
absolument,
quoi.
Voilà.
Alors, on a entendu la parole des politiques. Avant de passer la parole au chef d'entreprise et à l'agence de développement économique et au Garant de développement, Jacques, tu avais une question.
Oui, j'avais une petite question là, en écoutant tous ces témoignages sur le travail d'éducation auprès des jeunes. Une question sur l'âge de ces jeunes auprès desquels on intervient. Parce que je me souviens, c'est tout récent, là, d'une intervention sur une radio nationale, d'une personne qui raconter le retour de son gamin de l'école maternelle et effaré par les stéréotypes qui ressortaient. Il faut commencer quand même très très tôt. Elle était effarée parce que c'était un milieu où on faisait attention tout de même à cette lutte contre les stéréotypes. Mais il y a la télévision, bien sûr, il y a la publicité. C'est une force effrayante sur la fabrication de ces stéréotypes. Alors, il y a encore... il faudrait commencer à la racine.
C'est-à-dire
à l'école, dans les familles.
Primaire, à l'école primaire.
Et avant, peut-être.
Bon, donc dans les manuels scolaires, quoi.
Bien entendu.
C'est vrai que c'est une question importante, mais on va passer peut-être quand même du côté du monde économique, donc avec Jacques Louin, qui est directeur de Haute-Garonne Développement. Alors Jacques, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se croiser depuis quelques années sur le terrain. Alors vous allez pouvoir voir... disons plutôt nous expliquer ce que vous avez pu mettre en œuvre essentiellement aussi autour de cette promotion de la chaire de la diversité, Jacques. D'ailleurs, on a pu faire aussi des émissions aussi, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Taïeb Lemestari, où on avait invité des jeunes qui étaient justement qui se sentaient discriminés dans leur parcours de recherche d'emploi. Ils avaient pu ici exprimer leur expérience avec nous sur ce plateau. Mais Jacques Blouin, donc un petit mot sur le travail d'Haute-Garonne Développement, et en particulier peut-être cette charte de la diversité, quoi.
Effectivement, la façon de lutter contre les discriminations à l'embauche, nous, on l'aborde par la promotion de la charte de la diversité de l'entreprise, c'est-à-dire les 5 ou 6 articles qui permettent aux chefs d'entreprise de s'engager positivement pour lutter contre les discriminations au sein de l'entreprise. Et le premier point pour nous de travail avec les entreprises, c'est de travailler sur le recrutement, la notion de recrutement, pour améliorer la compétitivité au sein de l'entreprise. C'est ce sur quoi on se base le plus. Comment les chefs d'entreprise veulent améliorer leur compétitivité? D'abord, en effectuant des bons recrutements. Or, les bons recrutements, ils s'effectuent à partir de profils de poste clairement définis. Quelles sont les compétences dont on a besoin? On insiste beaucoup là-dessus. Et vraiment, quand je dis beaucoup, c'est tous les jours, parce qu'on se rend compte, encore dernièrement, dans un travail qu'on fait avec un certain nombre d'entreprises du territoire, que malgré l'expertise dont elles ont bénéficié, où on leur a dit, pour votre recrutement de personnel, il vous faut réaliser un profil de poste, une fiche de poste précise. On se rend compte que des entreprises n'ont pas vu ces préconisations qui étaient données dans l'expertise fournie par le cabinet, fournie par nous, et qu'elles allaient passer à côté d'un vrai travail de fond sur le recrutement.
Souvent, le chef d'entreprise n'a pas le temps d'analyser le poste réel.
Oui, intervention de Jérôme Ramirez. Allez-y.
Je vais juste compléter parce que c'est vrai qu'elle n'a pas le temps d'analyser. Le chef d'entreprise analyse très très mal avec le recul. Il est dans son dynamisme, il est dans son speed. Et c'est vrai qu'il analyse très très mal le poste du futur partenaire. Et des fois, il n'a pas les moyens non plus de payer quelqu'un pour l'analyser.
Alors le danger, d'après ce que je comprends, Jacques, c'est de se retrouver dans la sphère de l'affectif, de l'émotion, enfin dans la sphère des représentations finalement.
Oui, exactement.
Du subjectif, quoi.
Exactement, c'est-à-dire qu'on connaît quelqu'un finalement, et puis on se dit qu'après tout, ce sera peut-être un bon commercial, et voilà. Et on oublie de définir les lignes du poste. Finalement, on a de grosses surprises par la suite, hein. C'est aussi ça. Comme vient de le dire Jérôme Ramirez, en fait, le chef d'entreprise n'a que très peu ou trop peu, ou ne passe trop peu de temps, que trop peu de temps à définir
Pas assez de recul.
Tout à fait. Et notre travail à nous, on s'en rend compte aujourd'hui, avec un petit peu d'expérience sur la question, c'est qu'on va devoir aider les chefs d'entreprise à prendre ce recul et à les aider à trouver alors les financements pour un cabinet de recrutement ou les aider à leur donner un minimum d'éléments pour construire un profil de poste.
Oui. Alors Jérôme Ramirez, alors on l'a dit, vous êtes chef d'entreprise, mais aussi vice-président de l'Interclub 33. Alors un petit mot de présentation sur l'Interclub, c'est quand même intéressant. Donc il fédère tous les clubs d'entreprise de la Gironde. Je crois savoir que ça représente environ 1200 entreprises.
2000 entreprises.
2000 oui. entreprises, excusez-moi, j'étais bien en deçà de la réalité. Et combien d'emplois?
On est sur entre 40 et 50 000 emplois.
40 000, 50 000 emplois. Donc c'est vraiment un bassin d'emploi très important. Oui. Alors vous, en tant que chef d'entreprise et en tant que aussi représentant de l'Interclub 33, on l'a dit, vous assurez aussi la publication de l'Intermac 33, qui est un trimestriel qui permettra de rendre compte de la vie justement de l'Interclub. Comment vous abordez cette question de la discrimination?
Mais déjà, on a élargi un petit peu le champ. C'est la discrimination, aujourd'hui, elle ne s'arrête pas spécialement parce qu'on est maghrébin ou parce qu'on est tout simplement étranger ou parce qu'on est enceinte, mais aussi parce qu'on est patron de TPE. Et il est important de dire qu'aujourd'hui, quand même, nous, on parle aujourd'hui au niveau de l'Intermag et de l'Interclub de racisme en direction des petits patrons. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez un employé, il va à la banque, il va acheter une maison, il va acheter un prêt de 250, il veut prendre un prêt de 250 000 euros pour acheter une maison. Il va avoir sa maison. Vous, l'employeur, alors que c'est votre collaborateur, le prêt, vous l'aurez pas.
Oui, parce que vous avez besoin de l'investissement pour pouvoir répondre à un marché.
Non, tout simplement, c'est parce que pour une banque, vous n'avez pas les capacités de remboursement, vous n'avez pas droit au chômage, vous n'avez pas droit à tout un tas de choses, et c'est très très dur, ça va être plus dur pour vous de pouvoir acheter une maison que votre propre salarié.
Alors c'est vrai qu'on l'entend ici ou là, les PME, PMI ont de plus en plus de mal à accéder au crédit, enfin depuis la crise.
C'est pas récent, depuis 15 ans que je suis chef d'entreprise, c'est pas récent. Hein. C'est quelque chose, on est mal vu systématiquement par les organismes financiers et divers organismes, pas que là. Hein. Donc de plus en plus, ça ressort au niveau donc de tous ces clubs d'entreprise. On parle de discrimination en direction des TPE pour plusieurs critères, celui-ci puis d'autres. Hein, je ne vais pas tous les citer aujourd'hui.
Ça vous paraît la plus sensible des discriminations aujourd'hui, M. Ramirez ?
Mais on va parler de suicides aussi, ce qui est impressionnant, le nombre de suicides chez les agriculteurs, chez les patrons. On est en train, si vous voulez, au niveau de l'Interclub, de retrouver toutes ces stats qui n'existent pas. Donc de les chercher, de faire des enquêtes. On va parler par exemple de 37 suicides à France Télécom, mais on voit pas qu'il y a 400, il y en a 400 agriculteurs qui se sont suicidés dans l'année. Enfin bon, beaucoup de choses aujourd'hui.
C'est vrai qu'on reste focalisé quand même souvent sur les grandes entreprises, voilà, du CAC 40.
Et c'est pas ce qui fait l'économie.
Dans la vie des petites et moyennes entreprises.
C'est pas ce qui fait l'économie française. Hein, ces entreprises dans le CAC 40, comment dire, elles sont 40. Hein. L'économie française, c'est les TPE. C'est ce qui crée l'emploi aujourd'hui, c'est eux. Donc c'est eux qu'il faut aider. Pour justement la formation, je vois
aujourd'hui... Donc ça, aujourd'hui, pour vous, ça vous paraît important, en tant que chef d'entreprise et puis représentant aussi de ces interclubs, d'être formé justement sur cette question de la lutte contre les discriminations, par exemple pour le recrutement...
Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Il y a aujourd'hui, l'entrepreneur aujourd'hui, évidemment, a peur d'embaucher. Pourquoi il a peur de se tromper? Parce que pour lui, ça demande de l'argent qui est de plus en plus difficile à obtenir, étant donné que la crise depuis 2 ans est bien présente. C'est très très dur de faire de la marge. Et il a peur de se tromper. Donc l'analyse du poste, c'est une priorité. Et là, je suis tout à fait d'accord. On ne passe pas assez de temps avec ses collaborateurs pour savoir ce qu'ils font exactement. Alors après, pour recruter quelqu'un, c'est très dur. On va regarder un CV, mais on ne sait pas ce que fait le collaborateur. Moi, je vois, j'ai été confronté plusieurs fois à ce problème-là. Donc c'est... Et le collaborateur en face, alors on va marcher donc à ce qu'on appelle nous à l'affect, parce qu'on connaît quelqu'un qui cherche du travail.
Donc on reste dans le mode de représentation.
Tout à fait, tout à fait.
Donc il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Donc ça passera, on l'a dit, par les formations.
Et la formation, alors, la formation, c'est très très dur. Parce que le chef d'entreprise aujourd'hui ne sait pas quel est le levier à actionner. Aujourd'hui, nous sommes en train de, nous faisons, je crois, 6 formations supplémentaires au sein du groupe pour nos agents de sécurité et maîtres chiens. On ne savait pas où appuyer. Heureusement qu'on a pu avoir le bon numéro de téléphone. Une personne est venue se déplacer et faire des papiers, mais alors, je veux dire, tout plein de papiers qu'on aurait été incapable de faire en interne, parce que nous sommes des entrepreneurs, et faire du papier en quantité comme ça, on ne sait pas faire. Surtout que ce sont des feuilles qui ont été créées, qui ont été pensées, pas par nous, par des questions qui ne sont pas sur le terrain. Donc, et là, on a eu la chance que cet organisme vienne dans nos bureaux, fasse les papiers à notre place, et nous obtienne les fonds. Alors, je ne sais plus si c'est Opcavia, enfin, je ne sais pas si on peut les citer. Voilà, je ne sais pas.
Voilà. Donc Jérôme, l'importance de la plus-value que peut apporter des agences de développement économique comme Haute-Garonne Développement, qui peuvent justement prendre le temps à accompagner les patrons,
c'est très important, bien sûr.
Pour,
trouver les fonds,
le bon cheminement, quoi.
Trouver les fonds parce qu'on a peur. En même temps, le patron a peur de ce que ça va lui coûter. Nous, on a eu la chance là d'avoir un financement à 100%. C'est extraordinaire. Mais on ne sait pas ce que ça va nous coûter. Alors on peut pas dire on va aller en formation. On ne sait pas. Et c'est vrai qu'être accompagné à ce niveau-là, on a tous besoin, parce qu'on va de plus en plus vers une professionnalisation générale, si vous voulez, de tous les métiers, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. C'est l'absence de connaissances qui crée beaucoup de problèmes.
Alors très bien, je voyais des personnes réagir autour de la table. Oui, Jacques, Taïeb, tu voulais rajouter quelque chose, Taïeb El-Mestari ?
Oui.
Puis on passera la parole à Jacques après, puis ceux qui veulent l'apprendre, bien sûr.
Quelques mots, non, pour revenir sur ce qui a été dit, la réalité dramatique de certains petits entrepreneurs, le suicide, on ne leur accorde pas les prêts, etc. C'est une réalité incontestable, dramatique, mais ça ne relève pas du champ, en tout cas du sujet que nous abordons, de la lutte contre les discriminations. Et je voulais rappeler aussi, on a beaucoup parlé du recrutement, mais je pense que l'un des enjeux essentiels dans l'entreprise...
L'évolution de carrière.
C'est l'évolution de carrière qui est souvent bloquée.
Le fameux plafond de verre.
C'est vrai pour les femmes.
L'expression plafond de verre.
C'est vrai pour les femmes et c'est vrai surtout pour la question de l'origine. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de l'éducation. Il faudrait laisser tranquille les enfants.
Non, mais
ce que je veux dire par là, c'est que pour éduquer, il faut éduquer les éducateurs. Et donc, c'est la société. Donc, ce sont les mécanismes discriminatoires au sein de la société qu'il faut décrypter
et
combattre, etc. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de la question de l'école et du tabou à l'école. Effectivement, aujourd'hui, ça commence un petit peu à s'ouvrir. Et quand on propose des actions de lutte contre la discrimination à l'école, le premier réflexe, c'est de dire, allons voir les enfants, ils ont plein de stéréotypes, etc. Et comme ça a été dit, effectivement, les médias, etc., sont pour beaucoup là-dedans. Donc, nous, les adultes. Donc, il faudrait aussi analyser comment fonctionne. On a parlé tout à l'heure de systémie, comment fonctionne la discrimination et surtout son fonctionnement systémique, c'est-à-dire la responsabilité de tous les adultes à un niveau ou à un autre. Voilà ce que je voulais dire sur cette question de l'éducation.
Merci, monsieur El-Mestari. Jacques, peut-être vous vouliez rebondir
avec
ce qui a été dit.
Taïeb, sur la question des carrières. Bon, mais j'ai commencé d'abord par le recrutement, parce que, bon, après, effectivement, il faut s'occuper des carrières. Nous allons, et nous avons commencé d'ailleurs à travailler sur tout ce qui concerne les dispositifs de formation en alternance, un contrat d'apprentissage, contrat de qualification, professionnalisation, puisqu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui sensibilisés. Quand Yannick Delnest tout à l'heure posait la question de savoir que reste-t-il à faire, il reste beaucoup à faire sur l'ensemble de l'agglomération, mais je pense qu'ici, on a déjà fait un certain nombre de travail de sensibilisation, même de mobilisation de chefs d'entreprise. Et ceux qu'on a pu mobiliser ont une oreille attentive pour accueillir des stagiaires, pour essayer de voir s'ils peuvent prendre des contrats d'apprentissage, pour travailler sur le recrutement. On l'espère après pour travailler sur la gestion des carrières au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est encore une autre étape. Pour ça, il faut consacrer du temps. Il faut du personnel pour le faire, ce qui était à peine le cas jusqu'à très prochainement.
Aujourd'hui, Jacques, une trentaine d'entreprises ont déjà signé la Charte de la diversité sur la rive droite.
Oui, c'est exactement ça. 30 entreprises sur la rive droite avec lesquelles nous travaillons. Mais c'est un travail de longue haleine et... en plus de suivi important à faire. Parce qu'à la fin de l'année, il y a un bilan et il faut que chaque entreprise puisse afficher suivant ce sur quoi elle s'est engagée, au moins avoir conduit une ou plusieurs actions. Voilà.
Très bien, donc ce n'est pas juste un label effectivement qu'on va pouvoir mettre sur, la publication, sur une publication ou une autre, mais c'est un engagement réel qui peut être évalué, même d'ailleurs si on n'arrive pas à réaliser ce qu'on a promis, on peut ne plus avoir ce label.
Alors, le secrétariat national à la charte de la diversité l'a clairement annoncé, ceux qui n'auront rien fait pendant un an seront supprimés de la liste des signataires.
Alors peut-être que Christophe Arpaillon, je voulais rajouter un complément.
Il y avait deux choses, effectivement, Jacques l'a dit, la première des choses autour de la charte de la diversité, c'est qu'on a évolué d'un outil qui était d'un engagement moral à quelque chose qui est une obligation de moyens, et peut-être même ce serait encore mieux de résultats. Donc que les entreprises s'engagent réellement au-delà de l'affichage de bonnes intentions. Le deuxième point, c'est que la charte de la diversité s'ouvre au secteur public. Et je sais que sur le territoire, plusieurs mairies commencent à réfléchir à l'idée de, maintenant que les élus sont impliqués, à l'idée de la manière dont on peut appliquer ces principes à la fonction publique. Il y a aussi un certain nombre de discriminations directes, indirectes et systémique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale fait partie
qui était notre partenaire et qui est dans le plan et prêt à accompagner aussi. Mais bon, il y a une adaptation publique-privée aux des règles. Mais la discrimination existe aussi, soit de manière directe dans les administrations publiques, soit là aussi de manière systémique.
Oui, ce n'est pas réservé au monde économique.
Le CNFPT a bien montré que là aussi, sur l'accès entre les femmes et les hommes salariés dans la fonction publique, on est à peu près moitié-moitié. Là, jusque-là, ça va. Mais quand on regarde ceux qui sont cadres, la proportion est plus du tout la même. Donc, il y a des...
Là aussi, c'est le royaume de l'homme blanc, 50 ans.
Oui, à peu près.
Les salaires sont au moins équivalents. Aussi, ça, c'est déjà bien. Salaire homme-femme dans la fonction publique
sont
pas de distinction, ce n'est pas le cas dans le privé.
Voilà, ils sont équivalents, mais comme la position occupée finit sur la longueur de la carrière à être différente, les résultats finalement ne sont pas si...
Les retraites sont plus faibles.
Oui, en plus. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les mairies ont pris parfois des initiatives. Je pense à deux des six mairies, par exemple, qui ont introduit, on parle du CV anonyme pour le recrutement,
oui,
mais
la région, par exemple, la région
Aquitaine. La région le fait, Catherine en parlera peut-être, mais on a aussi... du dossier social anonyme. C'est-à-dire que deux des CCAS des mairies du territoire étudient les demandes d'allocation.
Alors pour quelle commune, Christophe ?
Pour Ambarès et Senon. Donc étudient, là, vous demandez une allocation de logement, un soutien scolaire, une intervention municipale. Le dossier est anonyme et vu sur critère. Après, effectivement, on ouvre pour qu'on voit si on connaît quelqu'un, s'il y a des choses particulières qui apparaissent pas dans les critères. Et dans les cases administratives, effectivement, se pencher dessus. Mais on sait que ceux qui sont dans la situation objective qui nécessite une allocation ou qui peut interdire l'auront un peu automatiquement, alors qu'effectivement, si on reste sur un tour de table avec les noms des gens qu'on connaît, des impressions, des stéréotypes, il y a des risques que certains ne bénéficient pas de leurs droits.
Merci Christophe Arpaillange.
Oui, Jérôme Ramirez. Ça ne marche pas, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Non,
chez vous, ça ne fonctionne pas.
Non, c'est... De toute façon, à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir la personne en face. Oui. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt de mettre un nom ou pas. Vous aurez toujours la solution d'esquiver.
Au dernier moment, de dire non, je ne prends pas.
Ce qui est important de souligner, c'est l'effet de cette discrimination. Parce que bon, on en parle, mais bon, on voit un jeune en bas d'une cité qui casse une voiture, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Mais parce que tout simplement, il est tellement rejeté de la société qu'on crée une délinquance, qu'on a toujours créé cette délinquance, et j'ai grandi à Palmer, donc je la connais très très bien à ce nom. On a créé une forme de délinquance, c'est le système qui crée tout ça. À force de repousser tous ces gens-là, qui n'ont pas le critère, qui ne sont pas, on va dire, préformatés pour un certain niveau, on crée une délinquance, c'est ce qu'on fait depuis des années. En fait, il y a quelques années, on les a en plus parqués, excusez-moi, je suis un peu fort dans ce que je dis. J'ai grandi à côté, donc je connais bien, j'ai grandi dedans. Donc, en rejetant tous ces gens-là, ben, on crée tout ce qui suit par la suite, les voitures qui brûlent, enfin bon, c'est
voilà,
ce qui
on, est revient,
on favorise de plus en plus cette délinquance.
On voilà. revient voilà, à ces enjeux de paix sociale, de cohésion sociale,
voilà. Et je parlais à tout maintenir... À je parlais tout à l'heure de patrons, en fait, qui se suicidaient, mais on ne parle pas aussi des jeunes tellement, si vous voulez, repoussés de la société, qui vont aussi faire des tentatives de suicide, parce oui, qu'il y en a quelques-uns, ou d'autres méfaits. Voilà. Enfin bon, on pourrait dramatiser, mais on n'est pas là pour. Hein.
Alors, je vois le temps qui passe. On aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'ai envie de laisser encore un petit peu le micro ouvert, mais alors peut-être en revenant sur le plateau et faire un tour de table avec sur ce qui a été dit hein, et peut-être donner comme on a la chance d'avoir à la fois la personne de Christophe Arpaillange qui représente le GIP-GPV, c'est-à-dire à la fois le porteur et l'animateur de ce plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations de la rive droite de l'agglomération bordelaise, Christophe, c'est ça? Donc peut-être faire quelques préconisations chacun à vos niveaux de vos fonctions et peut-être voilà, envoyer quelques idées, quelques pistes, quelques préconisations pour mais la poursuite de ce plan. Et voilà, Christophe, si tu es d'accord pour accepter ce tour de table. Bon, très bien. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut se lancer. Peut-être avec vous, Madame Belloc.
Moi, je voulais faire quand même un constat. Étant impliquée depuis de longues années et étant, j'allais dire, active dans ce domaine-là, je me rends compte que, quand même, il y a une reconnaissance difficile de la réalité discriminatoire.
On est souvent dans le déni,
voilà.
quoi. Hein.
Souvent. Et que les réponses des acteurs politiques, associatifs et syndicaux ne sont pas suffisantes et sans doute pas à la hauteur, parce qu'il faudrait pointer les faiblesses et faire des constats sans complaisance. Hein. C'est vrai que j'ai des propos peut-être durs et excessifs, mais je pense que Christophe pourra dire s'ils sont partagés, les autres acteurs pourront dire s'ils sont partagés. Moi, je pense que là, nous avons autour de la table un ADN de militants, hein, mais ça veut dire que s'occuper de la discrimination, c'est aussi accueillir, c'est avoir une écoute active, ça veut dire aussi en bout de chaîne agir, hein, pas seulement être dans l'écoute passive. Agir, se former pour pouvoir informer et orienter, agir, communiquer sur du concret. Donc ça fait autant de chantiers quand même, à mon avis, qui sont certes partis, hein, c'est parti, mais il reste tellement à explorer, tellement à partager et tellement aussi à faire. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Belloc. On passe la parole peut-être à Catherine Vessy pour la région Aquitaine.
Non, moi simplement ce que je retiens, mais parce que ça vient en complément de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que sur un sujet aussi fondamental, ce qui est important, c'est ce qui se passe ce soir, mais c'est ce qui se passe sur ce territoire-là, c'est-à-dire cette capacité que nous avons quand même, je crois qu'il faut parler de choses positives, cette capacité que nous avons à essayer, je crois que nous y parvenons, à traiter collectivement le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Je suis d'accord sur tout le chemin qui reste à parcourir, mais moi je pense qu'il y a une prise de conscience, je parle en tant qu'élu, parce qu'on a beaucoup parlé de la nécessaire sensibilisation des élus. Je trouvais ça un petit peu excessif quand même, parce que nous ne sommes pas quand même le seul levier qu'il convient d'activer pour régler cette question-là. Et puis je pense quand même que, s'agissant, parce que je suis aussi élu à Lormont, je pense quand même que ce que nous faisons avec les communes voisines depuis beaucoup d'années maintenant fait que quand même nous sommes sensibilisés à ce sujet, il reste beaucoup à faire. Donc notre capacité à travailler ensemble au-delà des frontières de la commune, ça je tiens à le dire, et l'effet GPV est très intéressant, et en plus il s'élargit commune d'Ambarès, de Sainte-Eulalie, parce que sur cette question-là, on n'a pas tout seul une réponse.
Oui, puis ça ne s'arrête voilà. pas à la limite d'une commune.
Exactement, quoi. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, hein. C'est cette façon que nous avons désormais d'appréhender des questions fondamentales ensemble, d'essayer d'apporter des réponses ensemble, des diagnostics, mais aussi des réponses. Moi, j'en veux pour preuve ce que nous travaillons, et là, je reprends ma casquette Conseil Régional Formation, sur cette question essentielle qui est l'accès à l'emploi par la qualification et par la formation des publics de la rive droite qui sont quand même beaucoup plus éloignés qu'ailleurs. Sur cette question-là, nous nous en sommes emparés ensemble avec l'ensemble des communes du GPV, avec tout un tas de partenaires, la mission locale, le PLI, oui, Haute-Garonne, etc. Nationale. Voilà. Donc cette question-là, ça veut dire que moi je suis assez optimiste dans la mesure où je pense que nous avons conscience du chemin qui reste à parcourir et nous avons donc validé le fait que nous devions y travailler ensemble, et ça c'est déjà déjà une avancée qui fait que je pense que nous avons une force d'entraînement qui est incontestable. Je le vois, ne serait-ce, je parlais tout à l'heure du réseau persévérance scolaire. Je le lie à tout ça parce que c'est vraiment toute une dynamique de territoire. Et là où on aurait pu avoir quelques établissements scolaires un petit peu sur la retenue, sur la réserve, et bien ma foi, cette capacité d'entraînement fait que progressivement, nous arrivons à entraîner tout le monde là-dessus, ce qui fait que je pense que fort des intelligences des uns et des autres, nous pouvons avancer sur ce sujet. Il reste encore beaucoup à faire et moi je salue vraiment l'engagement aussi des associations qui sont dont vous faites partie, mais voilà, hein, nous étions la semaine dernière au Festival des Hautes-Garonne, parce que je crois qu'il faut aussi dire que la richesse aussi, les initiatives culturelles, on a parlé du sport, il faut parler aussi de la culture, contribue très largement aussi à changer aussi l'image que nous pouvons avoir les uns des autres. Ça, c'est incontestable. Ces temps forts qui se sont passés sur le Festival des Hautes-Garonne ont fait aussi que bien, nous apprenons à nous connaître, apprenons à vivre ensemble. Ça passe aussi par ça. Et ça aussi, je tenais à le dire parce que c'est un effort qui a été fait, porté par l'ensemble des communes sur la rive droite, qui fait que quand même, on a, me semble-t-il, certes, on a relevé des faits de délinquance, c'est une réalité, et on ne va pas se voiler la face. Mmh. Mais à côté de ça aussi, nous voyons quand même arriver, me semble-t-il, une autre forme de partage, de convivialité qui fait que je crois que nous sommes sur la bonne voie.
Alors Catherine, avant de passer la parole à Monique Bois, je saisis la balle au bon parce que vous parliez du Festival de Garonne la semaine dernière. Donc je profite de l'occasion pour vous inviter tous à un autre festival qui aura lieu le samedi 27 août dans le Théâtre de Verdure, dans le Parc Palmer à Senon. Dont vous êtes tous cordialement invités. Et là aussi, on partagera de nombreuses valeurs, et en particulier celle justement de vouloir vivre ensemble. Et c'est une journée qui est placée sous le signe de la prévention et la lutte contre toutes les discriminations. Et bien entendu, en plaçant en priorité celles qui sont liées aux origines. Donc voilà, donc vous êtes tous cordialement invités sur cette manifestation Planète, qui est une manifestation qui est d'ailleurs itinérante. L'année dernière, nous étions à Lormont, chez vous, Mme Belloc et Mme Vessy. L'année avant, nous étions chez vous, à Monégois, à Bassins. Voilà, cette année, nous sommes à Senon. Et si tout va bien, peut-être l'année prochaine, à Foirac. Voilà, parenthèse fermée. Donc, Monique Bois, peut-être aussi quelques préconisations sur ce plan. Voilà, on en profite. Christophe est là, Payange, donc...
Je dirais presque que c'est difficile, après Mme Belloc et Mme Vessy, de pouvoir rajouter, parce que vraiment, elles ont dit tout ce que je pensais. C'est vrai que notre territoire, il y a plein de choses qui se passent. Il ne faut pas penser que le travail de lutte contre les discriminations se limite à ce travail qui est fait au sein du GPV, mais qui participe justement à rassembler les énergies autour de ça. Mais il y a une multitude d'actions satellites qui existent, qu'il faut valoriser. Je crois beaucoup, c'est vrai que sur notre territoire, on a peut-être une image qui n'est pas le reflet de la réalité. Et je pense qu'on ne valide pas suffisamment et qu'on ne met pas suffisamment en avant les réussites, les compétences, et ça dès le plus jeune âge. Je pense que les filles auront plus d'allant, même les garçons d'ailleurs, hein, qui n'osent pas aller sur certains champs, parce qu'on parle souvent de discrimination par rapport aux filles, mais il y a aussi les discriminations...
Mais c'est vrai qu'on voit très peu de garçons pour la danse classique, par exemple.
Par exemple, oui, et on leur reproche en plus, et on leur... Bon, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que tout ce qui peut être valorisation des compétences et des réussites sur nos quartiers favorisera la lutte contre les discriminations et favorisera le travail que l'on fait aussi et que l'on peut mettre en exergue.
Merci. Peut-être un mot de Jérôme Ramirez alors pour l'Interclub 33 et l'Intermag 33.
Bon, j'étais pas là pour spécialement.
En même temps, c'est important aussi d'avoir ce lien avec le monde économique parce que on le sait, la plupart des discriminations, on l'a répété ici ce soir, se trouve aussi dans l'accès à des services et dans l'accès à l'emploi surtout.
On soutient la femme. Enfin, on soutient la femme entrepreneuse dans l'Intermag. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses, mais je vais pas agrandir le sujet là-dessus. Je vous laisserai un dépliant en partant avec plaisir. Une chose importante au niveau de la formation et du soutien tout à l'heure aux entreprises, c'est qu'on doit apprendre aussi à tous ces jeunes-là à parler. à parler avec un patron. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver « Hey, monsieur, tu as du taf pour moi ». Ça, c'est pas possible, ça. Donc, les formateurs, ce sont des formateurs ou des animateurs, il faut qu'ils apprennent à ces jeunes-là à se présenter et à concevoir, en fait, qu'ils ont un dialecte de la rue c'est ça qui n'est pas bien vu, parce que je pense que l'apparence, c'est pas le plus gros problème au niveau du contact aujourd'hui. On est quand même assez européanisé, on fait pas mal de business avec l'étranger, mais c'est surtout le dialogue. Ils doivent apprendre à se présenter, à comprendre, à combler ce trou en eux qui est cette communication. Il faut que les formateurs apprennent à parler correctement à ces jeunes de la rue, on va dire, bon, pas que de la rue, mais pour pouvoir se présenter. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là qui est important, et c'est ce qui va faire peur. Là. C'est la première fois, c'est ce qui va faire peur au patron, c'est la tenue vestimentaire ou c'est le dialogue qui va faire que il va y avoir un système glacial qui va se passer dans le corps. Il faut apprendre à ces gens-là à se présenter, et ça sera une énorme évolution, à mon avis, déjà. Parce que moi, j'ai reçu dans mon bureau personnellement, je ne peux pas embaucher, ce n'est pas possible.
Est-ce que vous seriez
même
prêt,
avec des mots que je ne comprenais pas.
Jérôme Ramirez, est-ce que vous seriez prêt peut-être à mettre en place peut-être justement des genres de, comme dans un laboratoire, de tests sous forme d'un entretien, minute, de 10 minutes, comme ça, avec quelques patrons qui font partie des chefs d'entreprise, hein. Et justement qui permettra à des jeunes de simuler, de s'entraîner à des entretiens d'embauche. Je sais que Haute-Garonne Développement, Jacques, vous l'aviez fait avec le secrétaire général de la Charte de la Diversité. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous seriez prêt à mettre en place peut-être ?
Bien sûr, il faut, parce que je vais dire, parler vrai, c'est-à-dire dire la réalité des choses, c'est-à-dire pourquoi je vais pas vous embaucher, parce que vous venez de faire telle et telle erreur qui est importante. Et je pense qu'ils ont besoin de comprendre la vérité, de se retrouver en situation plutôt que de lui passer de la pommade. Mais non, c'est pas vrai, tu te fais des illusions, parce que c'est pas des illusions, il s'en fait pas, c'est la réalité.
C'est pas l'idée que de lui le réconforter là-dedans.
Non, c'est pas ça. Il faut vraiment approfondir le sujet, expliquer ce qui va pas, parce que je crois pas que c'est parce qu'on est noir ou parce qu'on est mat ou parce qu'on est étranger. Je pense que c'est plus par rapport à comment on a été élevé et où on a été élevé. Alors souvent, évidemment, ce sont des jeunes des cités, on les a parqués de toute façon, donc je ne vais pas revenir dessus, mais bon, je pense que c'est ça qui bloque dans l'emploi. Hein. Après, je ne sais pas, il y a des spécialistes.
Bon, mais c'est votre analyse de chez l'entreprise. On va passer la parole à Taïeb El-Mestari pour la direction régionale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale.
Ça tombe très bien parce que je voulais parler de ça à un moment donné, puisqu'il s'agit de parler vrai, alors parlons vrai. Effectivement, je ne nie pas cette réalité-là. Hein. Le savoir-être de ce qu'on va recruter. Mais il faut faire très attention, on est en train de vivre un recul sur cette question-là. C'est à partir du moment où on pointe cette question des discriminations sur les jeunes, comme tout à l'heure je l'avais dit sur les enfants, on a tendance, je ne dis pas que c'est votre cas, mais aujourd'hui je constate ce recul-là partout, y compris dans certains appels à projets, ou des réponses aux appels à projets, on voit ça. C'est-à-dire que sur cette question du savoir-être, celui qu'on va embaucher, on est en train de rendre responsable, y compris avec la notion de victimisation, rendre responsables les discriminés de leur propre discrimination. Donc il faut être mesuré sur cette question-là. Je ne dis pas que ce n'est pas une réalité, mais il faut faire très attention sur l'effet réactionnaire, entre guillemets, que ça peut entraîner si nous n'analysons pas l'ensemble de cette question sur les discriminations. Enfin, je voudrais rappeler une chose, puisqu'on a parlé des filles tout à l'heure, je voudrais rappeler une réalité aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les plus stigmatisés, les plus discriminés dans les quartiers, c'est un fait aujourd'hui, les études l'ont montré, à cause d'un certain féminisme mal compris, ce sont les garçons des quartiers arabes qui sont très mal vus aujourd'hui sur cette question-là. Et en fait, je voulais rebondir pour dire que cette question du savoir-être...
Oui, sur
cette question du savoir-être, il y a des résultats aujourd'hui, des tests faits par le Bureau international du travail qui montrent que à partir d'un testing, que 4 employeurs sur 5 refusent d'embaucher quelqu'un d'origine arabe ou noire, issu de l'immigration. 4 employeurs sur 5, c'est le BIT, c'est pas un organisme d'extrême-gauche ou des farfelus qui l'ont montré. En fait, je voulais terminer sur une chose, ne pas oublier que la discrimination, c'est une violence. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la question des délinquances, pour expliquer les actes de délinquance.
Roger,
c'est une délinquance, c'est une violence, une violence extrême. Et Fethi Ben Slama, psychiatre, parle même d'extermination sociale. C'est-à-dire, je rejoins Mme Belloc lorsqu'elle disait tout à l'heure, il faut être très vigilant, agir encore plus sur cette question des discriminations. On a vu qu'en 2005, ça pouvait provoquer et mettre en échec la cohésion sociale. Donc aujourd'hui, à nous aujourd'hui, sur le plan local, sur nos territoires, à agir de manière très concrète, en incluant, ça il ne faut jamais l'oublier cette dimension, en incluant ceux qui sont les premiers concernés par cette question.
Oui, Taïb, excusez-moi, juste une précision. Vous disiez dans les quartiers les plus stigmatisés, les plus discriminés vont être les jeunes garçons d'origine arabe par rapport aux jeunes filles qui ont un peu plus de chances de s'en sortir, c'est ça que
alors,
vous vouliez dire
je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas aujourd'hui, dans les représentations, puisqu'on parlait tout à l'heure de représentation, effectivement, aujourd'hui... à cause d'une certaine propagande, entre guillemets, qui a été faite, notamment sur la question des tournants dans les quartiers, etc., la violence, la
délinquance. D'accord, tous les mots viennent...
Les garçons, le garçon arabe stigmatise, prend sur lui tout ce qui est de plus négatif, fanatique parfois, sexiste, violent, battant sa sœur, empêchant les femmes d'aller dans l'espace public, etc. Donc tous les stéréotypes négatifs de notre société se trouvent concentrés sur le garçon arabe. Et aujourd'hui, il faut réfléchir à cette question et faire très attention à ça.
Très bien. Jacques Blouin, peut-être un mot de conclusion, Jacques, à la fois sur la charte de la diversité, puis sur les préconisations, peut-être pour le plan, l'animation du plan, Jacques Blouin.
Je dirais tout simplement, il y a quelques années, Haute-Garonne Développement ne travaillait pas sur ce chantier de la lutte contre les discriminations à l'embauche. C'est assez récemment, finalement, qu'on y travaille. Entouré à l'initiative du GPV et entouré et aidé en ça par les communes. Deuxième chose, moi je suis content ici de voir Jérôme Ramirez qui représente l'Interclub parce qu'on a démarré, nous, à sensibiliser d'abord les présidents de clubs d'entreprise, les clubs d'entreprise, et c'était au tout début difficile. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être dit, entendu, voire travailler avec les clubs d'entreprise. Donc, s'il y a une préconisation, c'est peut-être ça, c'est aujourd'hui de pouvoir, à la rentrée prochaine, travailler avec les clubs d'entreprise à une formation. Voilà. Des adhérents des clubs d'entreprise.
Même peut-être alors au-delà du territoire de Haute-Garonne, vu qu'on a la chance d'avoir en des représentants de l'Interclub 33, qui, comme son nom l'indique, représente les clubs d'entreprise de la Gironde. Bien évidemment, alors on commencera par la Gironde, après on fera tout le reste en Aquitaine. Bon, d'accord. Bon, très bien. Donc peut-être un mot de conclusion avec Joël Guérin, on vous l'a dit, donc ancien correspondant à la Halle, et aujourd'hui délégué du Défenseur des droits. Donc pareil, Joël, votre sentiment, votre analyse, peut-être quelques conseils pour la suite du plan.
Oui, donc la France a commencé la lutte contre les discriminations. Il faut être réaliste, il faut dire vrai. C'est une lutte qui va durer quelques siècles. Faut le savoir. Mais oui. Donc j'ai été très sensible à ce qu'a dit Madame Baylock. Il faut écouter. Il faut écouter avec empathie. C'est ce que nous faisons dans nos permanences à la Halde. À l'MJD de Lormont, à la Maison des droits de l'homme à Talence. Nous avons des gens qui viennent nous voir avec beaucoup, beaucoup de souffrance. Nous ne sommes pas psychanalystes, mais nous essayons de les écouter. Et ensuite, ce qu'a dit Madame Baylock, je la cite deux fois, parce que ce qu'elle m'a dit m'a beaucoup touché. Il faut passer à l'action. Donc on fait des signalements, on fait quelques signalements au procureur de la République, on souligne quelques cas à des avocats, et puis il faut continuer à se battre contre le cancer de la discrimination dans la société française. Et puis, de ma petite pratique, je vais nuancer ce qu'a dit Taïeb El-Mastari, les gens, ce que j'ai vu... Ma petite pragmatique, c'est les gens du voyage qui sont le plus discriminés de mon point de vue, parce qu'ils ont des problèmes avec toutes les communes, qu'elles soient de droite ou de gauche, et on le voit, on l'a vu hier avec les Roms qui veulent mettre des caravanes au CHU, ils souffrent de beaucoup de discrimination, ce qui n'est pas forcément le cas partout, hein, je veux pas... Voilà, donc il faut se battre. Et puis, de toute façon, c'est les politiques qui ont toujours le point d'achoppement. C'est eux qui décident. C'est eux qui ont le pouvoir. Et dans la démocratie, c'est la souveraineté nationale. C'est par le Parlement, c'est par le vote qu'on peut faire changer les choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En vous remerciant pour votre invitation.
Bon, on vous remercie évidemment, Joël Guérin. On va laisser le mot de la fin à Christophe Arpaillan, et peut-être Jacques, Yannick, si vous voulez
Bon, alors voilà, Christophe, alors, qu'est-ce que tu retiens de ces préconisations, de ces conseils? Est-ce que le plan est en bonne voie? Est-ce qu'il a fait des avancées jusqu'à aujourd'hui, 2003 à nos jours? Et demain, comment envisagez-vous l'avenir de ce plan de prévention et de lutte contre les discriminations sur la rive droite?
Alors, ça fait beaucoup de choses. Enfin, je pense à 2004, le thème qu'on avait choisi avec Gilles Hermé, qui à l'époque, pour le CNFPT,
on salue Gilles Hermé,
l'animateur du plan et qu'il fallait citer au moins... ce soir, parce qu'il a beaucoup porté, il nous a beaucoup aidé à porter cette question, à assurer les premières informations. Et donc, avec Gilles Hermé, on avait appelé ça, les élus nous avaient rejoints, un territoire s'engage pour l'égalité. Et donc, ce qu'on peut dire au bout de ce temps-là, c'est effectivement que c'est le territoire qui s'engage, c'est pas les élus, les chefs d'entreprise, les associations, l'État qui interviennent. Le premier point du plan, c'est effectivement qu'on a réussi à rassembler et je crois à faire une culture à peu près commune. Je suis pas sûr que les propos aient pas été interchangeables entre les uns et les autres, quelle que soit la position occupée. Donc, il y a ce côté-là qui joue en positif. Le deuxième élément positif, c'est qu'on a fait une montée en compétences claire. Donc, si effectivement, ça ne supprime pas tous les besoins de formation. On a parlé des chefs d'entreprise, on a parlé des élus, parce qu'on a des élus qui sont en charge de la question, qui sont très formés et très en pointe, mais qui nous ont renvoyé que leurs collègues, qu'on est sur une question transversale et que donc... comme on l'a vu sur la politique de la ville ou comme on le voit sur le droit des femmes ou d'autres questions, ça touche tous les domaines et les secteurs d'intervention, le sport, l'urbanisme, la santé, le logement et bien d'autres. Et donc que les élus qui sont en charge et en pointe là-dessus ont parfois du mal à faire partager à leurs collègues qui agissent de manière sectorielle cette préoccupation. Et surtout, pas tant comme militant convaincu et sensible, mais c'est comment ils la traduisent concrètement dans leur pratique et leur action concrète. Donc effectivement, s'il y a des formations à faire, ce sera davantage des formations action que des formations théoriques et presque métaphysico-philosophiques sur le thème. Le troisième point qu'on voit, c'est effectivement, qu'on parlait de communication, mais c'est effectivement de communication, culture et citoyenneté, et à travers les fêtes citoyennes de planète, la semaine du respect à Bassens, le travail du centre social de Lormont, se déclenchent des choses qui sont à la fois de l'action et de la réflexion et du partage et du dynamisme. Donc tout ça va dans le bon sens. Il y a quand même trois limites. La première limite, Taïeb l'a dite, donc je ne vais pas y revenir, c'est quand même le fait qu'on a une politique qui, au plan européen et national, est un peu chaotique. Et donc, on a parlé de la loi de novembre 2001, mais on a une loi en 2004, on a une loi en 2007, on a une loi en 2010, on a plusieurs références et plusieurs approches de la question qui peuvent éventuellement se compléter, mais tout ça fait quand même un peu... pour pas dire fouillis, capharnaüm, bricolage. Et c'est très compliqué, même pour les acteurs terrain, même pour les gens impliqués, de se retrouver dans le dispositif.
Qui est en constante évolution
et construction. Quand on a la HALDE qui commence à se faire connaître, elle devient, elle est intégrée dans les défenseurs du droit. Et en même temps, du coup, que devient le procureur qui commençait à s'engager avec un pôle d'antidiscrimination, du coup, qu'elle va être à nouveau sa place dans le système. Donc on est dans quelque chose qui est perpétuellement malléable et qui ne nous aide pas au niveau territorial. Le deuxième élément, Taïeb l'a dit aussi, c'est qu'on est sur une situation un peu paradoxale où les institutions au sens large et un certain nombre d'acteurs se protègent en renvoyant une partie de la charge et de la, comme une coproduction des discriminations qui impliquerait ceux qui en sont les victimes. Alors certes, au cas par cas, on va toujours trouver des éléments de légitimation de ce genre de discours, mais quand même, globalement, c'est plutôt une organisation sociale au sens large qui agit, qui marginalise et qui est une violence faite à une partie de la population, et souvent de la population française. Et le troisième point, c'est qu'on est petit territoire de 6 communes qui font, et d'acteurs qui sont regroupés, qui font ce qu'ils peuvent, qui mettent beaucoup d'énergie, mais les habitants de Lormont ou de Bassens ou de Senon postulent à l'emploi dans beaucoup plus que les 30 entreprises oui. signataires de la charte de la diversité.
Donc
on aura beaucoup... Voilà. Donc on a beaucoup à faire pour que ces petites initiatives ponctuelles fassent système ou contre-système.
Il y a une chose très importante, c'est que oui. l'emploi, c'est aujourd'hui à Bordeaux, il n'y en a quasiment plus. La crise a quand même emporté beaucoup de choses, donc il y a de l'emploi qui se fait, mais ça ne se fait plus comme avant. Donc c'est important de le souligner parce que la TPE aujourd'hui, les entreprises aujourd'hui, ont dû réapprendre dans les deux dernières années à gérer les entreprises, à générer des bénéfices différents et à minimiser des coûts. Et l'emploi ne se fait plus.
Mais sinon, du point de vue de recrutement, est-ce que les entreprises en Gironde recrutent de nouveau en ce moment ? Est-ce que la tendance est plutôt à la hausse ?
Suivant les saisons, en ce moment, on est en plein été. Une entreprise, donc, comme nous, on a employé un petit peu, mais c'est pour 3 mois, 4 mois. C'est plus saisonnier aujourd'hui le travail que constant.
Le bâtiment n'a pas repris, je veux
dire. Un petit peu, si le bâtiment a repris un petit peu, si quand même.
Bon. Merci pour cette dernière indication. Alors, on remercie évidemment Christophe Arpaillan, chargé de mission au GIF-GPV, qui assure le portage et l'animation du plan de prévention de lutte contre des discrimination de la rive droite de l'agglomération bordelaise. Joël Guérin, délégué du défenseur des droits. Tayeb El-Mastari pour la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale. Monique Bois, adjointe au maire de Bassens en charge des politiques contractuelles. Catherine Vessy, vice-présidente du conseil régional en charge de la formation professionnelle. Josette Belloc, alors première adjointe à la mairie de Lormont en charge de la politique de la ville et de la citoyenneté. Jacques Bouin, directeur d'Haute-Garonne Développement. Qui c'est que j'oublie ? Jérôme Ramirez, chef d'entreprise, vice-président de l'Interclub 33. Et j'oublie quelqu'un ? Non, ça va. Évidemment, Sud-Ouest avec Yannick Delnestre, Jacques Brunet pour l'écho des collines. Voilà, on vous remercie. Nous disons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question d'actualité. Merci. Au revoir.